Donc, je suis en compagnie de Nasreddine Nassil Bakir, Luc Rascha-Hert, Caroline Touvenot, Romuald Gvegan et Wilfried Estachy, afin d'organiser cette petite table ronde autour des non-voyants. Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour, sauf que c'est pas des non-voyants, c'est toute l'accessibilité pour tout type de handicap. Désolé de te contredire d'entrée de jeu.
Tout type de handicap, excusez-nous, mais c'est l'organisation, et l'objectif c'est qu'on parle tous justement. Voilà. Donc je vais laisser la parole à qui va commencer sur le débat. Donc je vais laisser à chacun se présenter ce qu'il fait, quoi, comment et ce qu'il vient présenter lors de cette table ronde. Donc je vais te laisser la parole, Nasreddine, afin que tu te présentes.
D'accord, donc Nasreddine Nassil Bakir, voilà, on a participé avec Luc Rascaert à Canal B à l'émission Handicap Zéro. Donc on travaillait pendant toute une année sur l'émission autour du handicap. Donc voilà, du coup c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à nouveau pour discuter de l'accessibilité pour les personnes handicapées.
D'accord, donc Luc, bonjour.
Ouais, bonjour, mais je vais encore une fois dire que je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas Handicap Zéro, c'est le journal du H qu'on faisait à l'époque sur Canal.
Oui, c'est vrai, oui. Pardon.
Désolé, Mena, c'est moi, on se connaît bien et on se contredit tout le temps, mais ce n'est pas grave, c'est une équipe qui fonctionne quand même. Donc on a fait cette émission pendant plus d'une année sur tout type de handicap, où on présentait les projets présentés par des personnes, pas par des assos, mais vraiment par des personnes. Donc aujourd'hui, on nous a proposé de revenir et de refaire ça voilà, aujourd'hui avec les gens qui sont là.
D'accord. Bonjour Caroline, bienvenue parmi nous.
Bonjour.
Alors vas-y, je te laisse te présenter.
Bonjour, je suis Caroline Touvenot, je suis présidente associative d'une association sur les troubles du langage. Ma grosse action est le tutorat au sein des établissements dans le bassin 35. J'accompagne des jeunes du CP à la terminale sur une action de tutorat, donc des élèves de BTS, tuteurs des dyslexiques sur du soutien scolaire.
D'accord. Bonjour Romuald, bienvenue parmi nous.
Bonjour Romuald de Guégan, Handicap Access. Alors moi je suis un trait d'union, le trait d'union entre un usager qui évolue dans un contexte, celui-ci pouvant être scolaire, professionnel ou également dans sa vie personnelle, donc entre un usager et des technos pouvant compenser, lui permettant de compenser les difficultés qu'il peut avoir en termes de difficultés motrices, handicap moteur et également tout ce qui est ce qu'on appelle les TSL, troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Donc voilà, je suis un trait d'union entre les deux.
D'accord.
C'est joli. Hein.
Et le dernier, donc Wilfried, bonjour à toi.
Bonjour. Moi, je travaille auprès d'un public en situation de handicap, donc plutôt des enfants et des adolescents. Je suis aussi administrateur à l'APRIL, l'association de promotion et défense des logiciels libres en charge du dossier de l'accessibilité. Je coordonne notre thématique accessibilité cette année au RMLL et je suis aussi président des RMLL de Strasbourg qui auront lieu en 2011.
D'accord, donc j'imagine que tout le monde doit avoir beaucoup de questions et de réponses à apporter aux questions des uns des autres. Mais je pense que je vais commencer par nos invités Nasreddine et Luc qui ont débuté avant sur Canal B. Est-ce que vous avez donc des questions à nos invités présents? Est-ce que vous avez des problématiques à présenter?
Mais moi, j'avais en fait une première question à poser, puisque c'est quand même une émission destinée à être à la portée de chacun. Peut-être une définition, peut-être ça a été donné dans d'autres émissions, mais une définition claire du logiciel libre, parce qu'on entend souvent logiciel libre, logiciel gratuit. Donc on comprend bien la demande des personnes handicapées de ce type de logiciel, parce qu'effectivement, il existe le handicap business avec des logiciels qui coûtent toujours une fortune et qui ne sont pas forcément à la portée de chacun. Par contre, il semble que le logiciel libre ne soit pas forcément du logiciel gratuit. Donc une définition peut-être. Et pourquoi est-ce que les personnes handicapées se dirigeraient plus dans ce cas-là vers le logiciel libre payant, entre guillemets?
Bon, on va laisser la parole à Wilfried.
Du logiciel libre payant.
Ça commence fort.
Hein. Ouais, gratuit.
C'est Luc, toujours.
Libre ne veut pas dire gratuit, effectivement. Les personnes en situation de handicap, effectivement, visent en premier la gratuité d'un logiciel quand il l'est. Après, libre, ils ne savent pas forcément ce que c'est, parce que l'accès au code source, quand ils ne sont pas développeurs, ça ne leur parle pas. Eux, ils verront plutôt la gratuité, surtout quand ils ont peu de ressources et peu de moyens. Maintenant, le logiciel libre, à la base, c'est les quatre libertés fondamentales. C'est un logiciel, c'est une licence qui dit que tel logiciel peut être étudié, utilisé librement. On peut le modifier, l'améliorer et le partager. Après, payant, c'est plutôt le service qu'il y a autour. Par exemple, la formation ou l'adaptation au plus près de l'usager. Là, il y a un service derrière. C'est plutôt ça qu'ils vont payer, en tout cas quand ça concerne le logiciel libre. Pas le logiciel en lui-même, parce que par définition, le logiciel libre est gratuit.
Je vais laisser la parole à Romuald qui voulait faire une intervention.
Voilà. Alors par rapport à ta question, pour moi, il y a deux réponses selon l'acteur qui se la pose. Il y a le thérapeute ou le pédagogue qui va chercher du logiciel libre parce que le financement actuellement d'un logiciel, même à quelques dizaines d'euros, est une horreur avec les institutions de type MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Ça, c'est un premier constat. Donc le thérapeute va chercher du libre pour justement apporter une réponse immédiate à une demande qui lui est faite par un usager. L'usager peut demander du libre parce qu'il est dans cette philosophie justement de ce partage, de cette communauté, et donc dans la philosophie du libre. Derrière, il y a deux possibilités, soit l'institution et ou le thérapeute, ou pourquoi pas l'usager et sa famille, est à même d'installer de façon autonome un logiciel libre, de le paramétrer, de le configurer, éventuellement, pourquoi pas, de le modifier aussi, ce qui peut arriver. L'usager et son environnement ont les ressources pour le faire, soit elle ne l'a pas, et dans ces cas-là, elles font appel à des acteurs, en l'occurrence comme moi, par exemple, en disant, voilà, on veut partir sur du logiciel libre parce que certains coûts de licence sont hors de prix, handicap business, la techno ne vaut pas le coût, plutôt le coût n'est pas en rapport avec la techno utilisée. Ça, c'est le premier point. Par contre, on n'a pas ce savoir-faire d'installation, de configuration, de paramétrage, et puis on n'a peut-être pas forcément le temps non plus de le mettre en œuvre. Le salarié, certes, en situation de handicap, intègre son entreprise la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il faut que tout soit bouclé. Et on n'a pas le temps d'apprendre à comment paramétrer le truc. Donc voilà. C'est effectivement le logiciel est libre en lui-même. Et c'est toute la prestation de service qui va tourner autour. L'installation et également et surtout, et j'insiste bien, la formation à l'utilisation du logiciel. Pas forcément l'utilisation la formation de la personne en situation de handicap, mais de tous les acteurs thérapeutes, de type thérapeute, qui vont être autour et qui vont le guider dans l'acquisition quotidienne du logiciel libre et de ses usages.
D'accord. Donc on va repartir sur Luc et Nasreddine. Donc vous avez vu la réponse à votre question ?
Oui, oui, justement, mais pour la suite. Donc là, on comprend bien le chemin qui est parcouru entre le logiciel libre et la personne handicapée. Mais comment ça se passe dans le sens inverse ? Parce que la plupart des personnes handicapées ne savent même pas qu'il existe un logiciel libre. A priori, n'ont pas l'idée de faire appel à des professionnels ou à des développeurs de logiciels libres pour pouvoir leur fabriquer un logiciel qui leur soit adapté. Donc comment ça se passe comment est-ce qu'est faite cette publicité auprès de ce public ?
Je vais essayer la parole à Wilfried pour répondre.
Oui, j'avais fait une conf là-dessus, justement, assez polémique. Faut définir, je pense, tu me confirmeras ou pas, Romuald, deux types de public. Il y a celui qui est en structure et il y a celui qui est chez lui.
Tout à fait.
Donc, celui qui est en structure, il dépend plus ou moins de sa structure. C'est là que devient l'information de ce réseau de professionnels, alors, très variés. Hein. Il n'y a pas que des thérapeutes, il y a aussi les éducateurs,
oui,
il y a très très vaste. Donc, un milieu compliqué, avec différentes contraintes que je considère comme fermées, paradoxalement. Et ceux qui sont à la maison, par contre, c'est différent. Alors là, il y a les intervenants, je pense, plus comme Rui Abuald, je pense. Mais ce n'est pas des publics faciles à atteindre parce que c'est... Il y a un travail.
Il peut y avoir le canal associatif, et dans ces cas-là, Caroline en est une représentante. le canal associatif peut être un bon vecteur d'information. Oui. Parce qu'effectivement, ce qui pêche, c'est avoir l'information de l'existence du logiciel.
La parole à Caroline.
Je rebondis sur ce que Romain a dit. Avoir l'existence, c'est aussi avoir. cette sorte de rassurance de dire il y a quelqu'un qui l'a testé avant moi et qui et avoir cette expertise d'adulte à adulte. Et c'est vrai que je l'ai remarqué plusieurs fois, c'est vrai que quand la personne porte le même trouble que soi, le regard est moins stigmatisant et donc permet de plus s'ouvrir et d'avancer correctement sur une bonne voie.
Visiblement, il y a un petit complément de réponse qui revient de Wilfried avant de retourner.
Oui. La plupart du temps, bon, ce qu'on voit, enfin moi ce que je vois en tout cas sur le terrain, soit il y a un développeur qui est sensibilisé, qui va rentrer en contact avec une structure ou une association diverse et variée, parce qu'il est intéressé de développer quelque chose. Donc on a souvent ça, on appelle ça les bidouilleurs, mais ils sont importants aussi, qui vont pas penser sur le plan général, enfin pas global, mais c'est vraiment spécifique. Ils vont dire, voilà, je connais cette personne handicapée de ma famille ou de tel asso. Après, dans les structures, ben là, il faut faire un travail de sensibilisation, de promotion qui est très, très, très long, parce qu'il y a plein de contraintes. Ils ont plutôt une tendance à penser propriétaire. Mais il y a quand même des choses qui sont faites. Y a
tu parles de la structure dirigeante là, ou tu parles de la personne directement intéressée par le logiciel?
Non, je parle plutôt de la structure dirigeante, parce que ceux qui sont en structure, ils dépendent de la structure souvent. Mmh. À domicile, ils sont suffisamment autonomes pour prendre leurs décisions. Et là, bon, c'est plutôt dans des réseaux associatifs comme Caroline ou d'autres. Mais quand on est en structure, ils dépendent de la structure souvent et ils n'ont pas accès à l'information de savoir que ça existe. Il faut qu'on aille vers eux et surtout passer par le relais des professionnels ou des directeurs de structure pour leur dire, voilà, il existe ça, et promouvoir le Liman.
Je vais redonner la parole à Luc et Nasreddin pour d'autres questions.
Oui, moi je voulais savoir, Wilfried et Romuald, l'utilisation qu'on pourrait faire d'un logiciel libre dans vos diverses associations que vous avez.
Romuald.
Alors la question est extrêmement large et il y a une multitude de réponses. Que peut-on faire d'un logiciel libre? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est rassembler une communauté la plus large possible autour d'un logiciel. Ce que je voulais rajouter tout à l'heure en aparté, c'est la confusion qu'il y a entre logiciel libre et gratuité. Et malheureusement, dans certaines institutions, on tend à avoir des professionnels salariés qui deviennent des consommateurs et qui prennent, comme dans un supermarché, des produits, ils sortent sans payer, et si ça ne convient pas, ou si ça ne leur convient pas, ils ramènent ou ils jettent, sans participer, en disant « ça ne me convient pas parce que ». Et ça, je trouve ça dommage et regrettable.
Ça fait partie du milieu du logiciel libre, et c'est vrai que c'est des choses qui évolueront avec le temps. Je laisse la parole à Caroline.
Juste rapidement aussi sur le logiciel libre, ce qui peut être aussi bien, c'est donner la parole aux personnes handicapées, leur permettre d'être experts, puisque c'est un mot favori dans l'Académie de Rennes, l'expertise. Il peut y avoir comme des sociétés comme Romuald de Guégan qui sont sur l'expertise, mais donner la parole à des personnes handicapées, c'est aussi leur donner la possibilité de s'exprimer et de se faire connaître et d'avoir aussi une reconnaissance sociale.
On peut espérer l'évolution de table ronde comme on a maintenant tout de suite sur Divergence FM et aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre sur rmll.info. Je vais laisser la parole.
Ouais, Romuald n'a pas répondu. Wilfried, excusez-moi.
Je vais laisser justement la parole à Wilfried.
Quelle utilisation des logiciels libres? Autant poser la question, quelle utilisation de l'outil informatique?
Oui, voilà.
C'est
oui,
la même question.
Tu as traduit ma question.
Voilà, donc ça dépend du public. Ça dépend de la personne, je dirais même. Moi, je parle de la personne. Bon, ça, c'est mon côté éducateur. La personne, selon le handicap, a besoin de communiquer. Ça s'arrête là. Déjà pour communiquer avec le monde extérieur par rapport à ses besoins, dans le cadre du polyhandicap, par exemple. Donc là, effectivement, il y a plein d'outils propriétaires. On parlait des pictogrammes ce matin. Donc là, l'utilité du logiciel libre, c'est qu'elle puisse utiliser un outil sans qu'elle ait déboursé des sommes phénoménales. C'est plutôt là-dessus qu'on le voit en premier. Et après, selon le retour d'expérience, dire au développeur, voilà, ça ne va pas, il manque des choses. On est en train de travailler dessus, justement, en Alsace, en ce moment. Après, pour d'autres qui ont des facultés intellectuelles limitées dans le cadre du handicap mental, ben, c'est juste communiquer avec sa famille. ça s'arrête des fois là, ou voir une vidéo de Star Academy, comme je dis souvent, j'ai dit ce matin, c'est juste ça. Bon, ben, donc là, il faut des outils plutôt style web, plateforme web adaptée. Donc ça dépend vraiment de l'usage, en fait. On part de l'usage, donc ça peut servir à tout.
Décris-nous un peu les pictogrammes que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde...
Les personnes qui n'ont pas accès à la lecture et l'écriture peuvent utiliser les pictogrammes. Il y a des bases qui existent, il y en a un bon paquet, on en parlait ce matin. Et ça leur permet, il y a une syntaxe grammaticale propre, c'est des images très simples, mais c'est des licences, c'est des bases propriétaires, quasiment toutes. Il faut payer une licence pour qu'on puisse ne serait-ce que dire le nom de la base. Pour vous dire que c'est assez compliqué ce milieu. Mais par exemple, ces jeunes ne peuvent pas aller sur Internet parce qu'il faut savoir lire. Donc du coup, là, il y a un problème.
Voilà. Il y a Romuald qui voulait ajouter quelque chose.
Oui, non. Alors le pictogramme, sur une définition très large, c'est effectivement un dessin. Et on peut même parler d'idéogramme qui va avoir une représentation. Et en fonction du picto précédent et suivant, peut avoir des sens différents, justement.
C'est la syntaxe.
C'était une petite précision pour nos auditeurs qui n'étaient peut-être pas au courant et des personnes autour de la table. Je vais laisser la parole à une personne qui n'est pas autour de la table, mais à nos auditeurs, notamment quelqu'un qui a une question pour vous cinq.
Question piège, non ?
Qui est comment favoriser les grosses sociétés à former des employés spécialisés dans l'assistance technique aux handicapés ? Par exemple, un fournisseur d'accès à Internet. Est-ce que quelqu'un se sent de vouloir répondre à cet auditeur ?
La question est déjà de savoir peut-être si ces grosses sociétés ont l'envie de le faire. Parce que
il y a la loi de 2005.
C'est la parole à Romuald, vas-y.
Moi je dirais spontanément qu'il y a la loi de 2005 et l'obligation pour déjà toute société en interne de favoriser l'accessibilité à ses salariés et également à toutes les institutions publiques. Commençons déjà par le public avant de parler d'entreprise privée, mais à toute institution publique de rendre accessible le service proposé. On pourrait débattre des médiathèques et des bibliothèques, etc. Et derrière, sur une entreprise privée cette fois-ci, alors on peut citer l'exemple d'un fournisseur d'accès à la DSL, c'est la population de personnes en situation de handicap, c'est aussi une population entre guillemets, de clients, donc c'est un client qui paye. À partir du moment où un client paye, il a le droit au service pour lequel il a payé. Avec une réponse certes peut-être adaptée ou différente, mais la loi de 2005, elle est là.
Hein. Mais ça, c'est la théorie, parce que la loi de 2005, on sait bien que d'abord, il y a un certain nombre de décrets qui n'ont pas été publiés et qu'elle est loin d'être appliquée telle qu'on l'aurait souhaité ou telle que les politiques l'auraient officiellement souhaité au départ.
Il y en a qui peuvent faire payer l'amende.
Alors, il y a rapidement l'internaute qui rajoutait juste une petite explication. Il disait plus clairement, est-ce que mon employeur a le droit de me refuser la possibilité d'aider une personne non-voyante, par exemple, configurer son client email ? Je vais laisser Caroline répondre à cette question.
J'ai été oui et non. Je ferai une question un peu binaire. J'ai fait des stages étudiants en tant que référente handicap dans les entreprises. Et comme disait Romuald, la loi de février 2005 est opposable à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Cette loi, elle a été publiée, elle existe. Et si elle n'est pas appliquée, il y a des possibilités de médiation pour justement.
D'accord.
Moi, j'ai une réponse aussi. On a une association, pour les personnes handicapées visuelles. Qui s'appelle Handicap Zéro, qui fait pas mal, notamment, et je pensais notamment tout ce qui est pharmacie, boîte de médicaments. Donc elle allait chercher un petit peu les informations, elle allait dans les différents laboratoires, et elle a eu certains résultats. Et maintenant, en Europe, on est obligé, les nouveaux médicaments, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y en a de plus en plus, tous les médicaments sont écrits en braille. Donc, c'est un peu aléatoire, on a... Nos factures téléphone en braille, il y a pas mal de choses faites, mais c'est vrai que c'est un boulot tellement monstre que les résultats vont pas être là tout le temps.
D'accord, je pense qu'il a eu les réponses qu'il souhaitait. Donc Luc, Nasreddine, est-ce que vous avez des questions autres à poser avant que je passe aux questions des autres ?
Mais moi je voulais revenir un petit peu en arrière parce qu'on a parlé du logiciel libre et gratuit, mais est-ce que gratuit finalement ça peut pas être un frein ? pour un employeur par exemple, si on lui présente une solution gratuite, est-ce que ce sera aussi crédible qu'une solution payante ?
Nous, c'est ce qu'on met en avant aussi. C'est effectivement, les employeurs ou les entreprises, quand elles entendent ça, gratuit, oui, effectivement. Quel support derrière ? C'est la première question, c'est oui, ok, si ça ne marche pas, c'est en panne, j'appelle qui ? Donc après, c'est là que moi, je mets en avant la multitude d'acteurs du libre qu'il y a autour, en local, quand il y en a, ou un peu plus loin. Mais il y a des acteurs qui peuvent justement répondre aux questions de ces entreprises.
Après, il y a un autre volet, le volet AGFIP, cette fois-ci, et le financement. C'est Romuald qui parle. Vas-y, oui. Non, c'est je... Quoi ? Enfin... Je ne sais pas si ma réponse est appropriée par rapport à votre question. J'espère ne pas faire de hors-sujet, mais quid de la prise en charge par les AGFIP de l'installation d'un logiciel libre ? On peut se poser la question. Il n'y a pas de facturation de licence. Donc il n'y a pas de matière, on va dire, à rembourser, si ce n'est de la prestat de service qu'il y a autour. Et le temps passé éventuellement par les informaticiens en interne pour l'installation spécifique.
Et dans ce cas-là, est-ce que le service justement est à la maintenance et à l'installation, c'est quelque chose qui peut être financé par les...
À mon sens, oui.
Oui, tout à fait.
Au niveau AGFIP, oui. Alors AGFIP et, pour ne pas les oublier, le FIPHFP, qui est l'équivalent public des AGFIP.
Il n'y a pas que les AGFIP, hein. il y a des collectivités qui y croient aussi.
Hein. Oui, bien sûr.
Ça dépend au niveau local.
Mais... À partir du moment où la réponse apportée satisfait pleinement les besoins exprimés par la personne et sont en rapport avec son poste de travail, avec sa fiche de poste, je ne verrais pas pourquoi les AGFIP ou les FIPHFP ne le prendraient pas en charge. Néanmoins, effectivement, il y a d'abord une explication à l'interlocuteur de ce qu'est le logiciel libre. Voilà. Il y a ce préambule-là à faire.
Il y a une formation à faire auprès de la GFI, parce que lorsqu'il y a un poste adapté, ils vont jamais sur les logiciels libres.
Non, jamais. Il y a, alors, je dirais pas une formation, je dirais une information et une sensibilisation là-dessus. Alors, je n'ai pas les retours d'usage sur NVDA, par exemple, qui est l'équivalent en logiciel libre d'un célèbre lecteur d'écran.
On a une interview qu'on passera tout à l'heure.
Je ne voulais pas le citer.
On l'avait fait hier.
D'accord, donc, ok.
C'est un très célèbre film de Spielberg aussi. Merci anglaise.
En tous les cas, voilà. Information, sensibilisation à faire auprès des publics de type AGFIP, MDPH également, éducation nationale, enfin dans tous les milieux.
Faut-il encore que la MDPH ait le temps.
Ouais. Et quelle est la sécurité en fait qu'un employeur peut avoir ? Parce que Wilfried, tu nous dis, voilà, il y a toute une communauté autour qui peut participer au développement du logiciel, mais bon, imaginons, l'entreprise décide d'adapter son logiciel. Propriétaire pour le coup, puisque c'est un logiciel utilisé par l'entreprise, et dit voilà, bon, moi j'ai besoin de quelqu'un, un développeur a développé une application qui permet à mon employé avec handicap d'utiliser notre propre application, notre logiciel. Maintenant, on veut faire appel à lui pour qu'il réadapte, et le développeur en question, il n'est plus là. Comment ça se passe alors après ?
Le logiciel libre, c'est des briques génériques libres. Et donc, ce qui fait que si une personne ne peut plus prendre le relais, il y a une rupture de l'entreprise. On le vit en Alsace parce qu'on a beaucoup d'entreprises effectivement qui sont dans le libre, qui proposent des services du développement. Ils vont dire, voilà, moi, je propose le service d'adaptation, de prendre le relais derrière. Quand c'est des briques génériques, on peut reprendre le relais plus facilement. Si c'est propriétaire, il faut tout refaire. Donc, l'entreprise, elle va dire, je reprends le relais, la brique générique, je la récupère, je l'améliore ou je modifie selon vos besoins de l'usager, tout en gardant cette licence, parce qu'il faut respecter la licence, quoi. Donc voilà, il suffit. Après, c'est vrai qu'il y a des régions qui sont peut-être moins fournies en structure, enfin en entreprise SS2L. Mais voilà, ce serait plutôt comme ça.
Est-ce qu'il y a une organisation qui regroupe un certain nombre de développeurs et auprès de laquelle pourrait s'adresser un employeur pour justement, ça serait... qui est ce suivi ?
Ça serait regrouper toutes les entreprises de France. Enfin, ça veut dire, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Ça,
c'est pas plus. C'est utopiste.
Oui. C'est la même question.
À part appeler, avoir les pages jaunes ou des choses comme ça, c'est sûr que. Après, il y a des regroupements par des associations libristes. Effectivement, on peut avoir peut-être des adresses.
Mais c'est moins pire entre guillemets qu'un logiciel spécifique développé de façon propriétaire par une SS2I, qui vend une licence unique, on va dire, à son client, et cette SS2I qui ferme, et alors là, c'est fini, c'est la cata.
Parce que le brevet,
La cata. Alors si on ne lui a pas fourni les codes et complètement expliqué, mais alors 10 000 lignes de code expliquées, c'est même pas la peine.
Voilà, que là, il y a moyen de trouver, même à distance, parce que c'est du code, il y a moyen de trouver une entreprise en France qui sera capable de reprendre derrière, parce qu'il a le code source. Après, il faut le temps de l'étudier, comment il a été fait. Mais voilà.
Pratiquement, comment ça se passe? Quel est le chemin parcouru par l'usager pour pouvoir obtenir un logiciel libre qui lui soit adapté? Peut-être plus Caroline qui pourrait répondre à cette question.
Ouais, plutôt Caroline, je pense.
Alors, là. Caroline semble dubitatif. Oula.
Oui, trouver l'information, faire une analyse de besoin. Je reste persuadée qu'un logiciel adapté, il faut une aide, une information, une sensibilisation, une communication, que ce soit pour la dyslexie ou même pour n'importe quel type de handicap. Et ce n'est pas forcément... Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donner la parole aux personnes handicapées justement pour justement tout analyse de besoins et choses comme ça. Je pense que c'est indispensable.
Mais vers qui il se dirige concrètement? Parce que là, il y a Romuald qui nous a bien dit qu'il était effectivement un trait d'union. Mais j'imagine qu'au niveau national, un seul trait d'union, c'est un peu court. Donc comment ça se passe? Voilà, quelqu'un qui habite à Paris, qui habiterait à Marseille, et un troisième qui aurait besoin de ce type de logiciel, auprès de qui il s'adresse concrètement? Comment ça se passe?
Je vais commencer à répondre. Il y a des associations nationales. Qui font les traits d'union en toute la France. Il y a aussi, ça marche énormément par le bouche à oreille.
Il y a quand même beaucoup de communautés qui se traduisent sous forme de blog ou de forum sur Internet. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, au sein d'une structure associative de certaines tailles, il est nécessaire qu'il y ait une veille techno, que quelqu'un, tous les mois, passe quelques heures, quelques demi-journées à surveiller ce qui arrive et à contribuer également. La veille techno.
Je passe la parole à Wilfried.
Alors, il y a des réseaux. Il y en a au niveau national. Il y a le réseau RNT, Nouvelle Technologie de l'APF, par exemple, qui existe. Il y avait Handicap International qui avait des informations, malheureusement, qui n'existent plus aujourd'hui. Enfin, plus aujourd'hui,
ils ont fermé.
Voilà, tout simplement, pour des raisons budgétaires. Ensuite, à l'April, on est en train de mettre en place un groupe de travail. On va essayer de développer une expertise là-dessus afin de pouvoir répondre aux demandes, à ce genre de questions, justement. Donc, il y a des structures, il y a des choses qui se mettent en place, qui existent ou qui se mettent en place, comme chez nous, par exemple.
Je vais rapidement vous poser une question supplémentaire qui vient cette fois-ci par part du chat numérique, mais du chat papier. Je ne sais pas si le papier est libre et s'il correspond au rencontre de l'ICI, mais
il semble recyclé en tous les cas.
En tout cas, il semble recyclé. Nous avons une question. En fait, venant de l'intérieur, en fait, ne manque-t-on pas de personnes handicapées développeurs?
La question, à mon avis, est plus large que ça, c'est au niveau de la formation. Déjà.
Quelles sont l'éducation nationale, quelles portes ouvre l'éducation nationale aux jeunes, donc élèves, en situation de handicap? Si on prend l'exemple, et là Caroline argumentera beaucoup mieux que moi, mais deux jeunes en situation de difficulté face à la lecture et l'écriture, qui ont un niveau d'aptitude, de coefficient intellectuel ou tout ce que vous voulez, égal ou supérieur à la moyenne de leurs camarades, et qu'on met en SECPA, et qu'on oriente, tiens, toi, tu feras un CAP ou un BEP, ou etc., et qu'on fait des équations très rapides en disant ne sait pas lire, donc dyslexique, ne sait pas lire, égale CAP, alors qu'on a le professeur Gombert à Rennes qui est dyslexique, donc professeur universitaire, alors que j'ai rencontré dernièrement un pilote d'avion chez Air France qui est dyslexique également. C'est qu'à un moment donné, c'est péjoratif en disant ces gens-là, mais cet exemple du professeur Gombert et de ce pilote d'avion ont dû se battre contre l'institution qui, au niveau de la République, est supposée les aider, ce qui est quand même incroyable. Et aujourd'hui, c'est quand même plus ou moins toujours la même chose.
D'accord, sinon on me répond par internet, Osvaldo La Rosa est très connu, je ne sais pas s'il est développeur ou utilisateur de logiciels libres, et il est non-voyant. Donc il y a des personnes qui a priori se sortent du lot, mais maintenant la question c'est est-ce que ces personnes qui sortent du lot ont accès aux possibilités nécessaires d'améliorer leurs propres conditions quant au truc numérique.
S'ils se lancent dans la formation, l'auto-formation en tout cas, la communauté libriste, je ne fais pas de ségrégation, j'en ai jamais vu, c'est très ouvert. Donc à ce niveau-là, ils ont accès à des informations. Maintenant, après, en termes de formation...
La formation initiale ou la formation continue est d'abord un frein à la personne qui se trouve en situation de handicap. Alors, ce qui est en train quand même de changer par rapport à l'université qui ouvre de plus en plus ses portes aux jeunes, ça c'est, enfin, dans ma région, dans la région que je connais en tous les cas, ça c'est le cas. Premier point. Le deuxième point, des développeurs en situation de handicap, j'en côtoie. Parce que le handicap, c'est pas seulement de naissance, c'est aussi au cours de la vie, c'est aussi une évolution, etc. Et donc, dans la population de développeurs, il y a des gens en situation de handicap visible ou invisible.
D'accord. Je vais maintenant diriger les questions vers d'autres personnes. Donc, Caroline, Romuald, Wilfried, peut-être que vous avez des questions, vous, ou des sujets à proposer, à discuter là maintenant, que vous souhaitez mettre en évidence.
Alors, moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est la capacité à un groupe humain de se fédérer. Alors, ma question sera, comment réussir à fédérer un groupe de personnes avec des intérêts communs, enfin, que l'on perçoit comme commun, autour justement de l'accessibilité et du handicap dans le monde du libre. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que entre assos ou entre déficiences, il y a des guerres de clochers.
Alors, qui tente de pouvoir répondre ?
La guerre de clochers, effectivement, c'est le cas. Maintenant, parce que chacun travaille un peu dans son coin, il y a des initiatives, il y a des richesses dans ce milieu, c'est du vécu. Maintenant, comment faire le lien avec tout le monde ? Alors, moi, c'est vrai que dans le groupe de travail qu'on est en train de monter, je souhaite en tout cas qu'on crée ce trait du lien, qu'on fédère un maximum de professionnels, des développeurs.
C'est Wilfried pour April qui parle, que chacun soit au courant.
Oui, voilà, Wilfried pour April. Oui, exact. que justement, il y a un maximum de personnes, que ce soit hétérogène, justement que ces développeurs, ces petits développeurs dans le coin, ou des gens qui ont des besoins, ou des petits projets qu'on n'entend pas parler, tout discret, j'en connais, personne n'est au courant, il n'y a pas de licence encore dessus. Ah ben oui, tiens, le libre, ouais, c'est intéressant. Et ben justement, on aimerait, par ce groupe de travail, fédérer un peu tout ça, mettre en place des objectifs à long terme et à court terme pour promouvoir le libre dans les autres structures qui, elles, ont plus de difficultés. Donc justement, c'est le projet.
D'accord. D'autres remarques sur ce sujet-là de la part Luc, Nasreddin ?
Non, je crois que ce qui a été dit est assez complet. Le problème, avant d'unir autour du logiciel libre, il faut déjà essayer d'unir simplement toutes les assos qui ont toutes peut-être des besoins communs, mais des envies divergentes.
Les assos, ça va être compliqué. Après, les gens du terrain, les assos, je pense que ça va prendre pas mal de temps parce qu'ils sont tous occupés avec entre les problèmes financiers, entre les problèmes de texte, de procès, de ceci, de cela. Je veux dire qu'ils ont vraiment la tête à autre chose. C'est plutôt des gens de terrain. C'est eux qu'on va plutôt aller voir, parce que c'est eux qui sont en contact avec les personnes handicapées. Ce n'est pas les associations gestionnaires. Elles sont plus là, elles sont complètement déconnectées. Voilà, donc c'est plutôt elles dont on a besoin.
Il y a des associations où il y a rassemblements, oui, c'est Nasreddin, il y a des rassemblements qu'on obtient, notamment pour tout ce qui est accessibilité dans la ville. Mm-hmm. Je vois à Rennes, notamment avec le métro, tout ça, l'accessibilité de la ville, c'était assez. Il y avait un consensus, visiblement, qui s'était installé.
Il y a une Caroline qui voudrait faire une remarque là-dessus.
Pour revenir sur l'accessibilité de la ville de Rennes, il y a une commission justement par rapport à ça et au niveau du conseil municipal qui a été créé. Et j'en fais partie et c'est vrai que c'est pas un consensus, c'est vraiment prendre en compte la personne handicapée, essayer de se mettre de voir ces difficultés en fait dans la ville, au niveau du bâti, au niveau de la loisir, au niveau de la culture, et on oublie trop souvent que le loisir et la culture pour une personne handicapée est là. Et c'est vraiment si je peux vraiment dire quelque chose, c'est vraiment ça. Ces loisirs et culture existent pour les personnes handicapées, ils sont des citoyens normaux.
De quel sujet plus libre on pourrait parler que le libre accès à l'art et à la culture aujourd'hui, c'est bien la quintessence, libre accès effectivement à tout ce qui peut être apporté, tout ce qu'ils ont envie d'avoir.
Après, je pense qu'il faut partir de la personne. Il faut partir vraiment à la base. Le cœur, c'est la personne. C'est ce qu'elle a envie de faire, de l'ordinateur, de l'outil, en part d'elle. Il ne faut pas qu'on oublie ça surtout, quoi.
Belle remarque de Wilfried.
Les musées, notamment, je ne sais pas si vous allez souvent au musée, ouais. Il y a vraiment un gros effort, je crois que c'est au niveau même de l'Europe, mm-hmm. qui a été fait, notamment avec l'arrivée d'audio-guides mm-hmm. assez oui. systématiques. Et ça, c'est vraiment pas mal.
On a ça en ville chez nous, ils font le tour aussi. De la ville avec audio-guides. Mm.
Caroline souhaitait faire une remarque.
Il y a aussi, maintenant, ça se met aussi au niveau des théâtres. Au niveau du TNB à Rennes, il y a une boucle sonore qui existe. C'est vrai que ça permet aussi de suivre une pièce de théâtre et d'éviter d'exclure la personne.
J'aurais une question à poser à nos 5 invités en face. Si jamais j'ai un ami non-voyant, ou un auditeur non-voyant, ou quelqu'un qui pourrait avoir accès à ce que nous allons dire maintenant, qu'est-ce que je pourrais lui conseiller de faire ? Qui est-ce qu'il faudrait qu'il contacte afin qu'il puisse avoir les informations nécessaires sur un accès à l'informatique, accès à la culture du libre, accès à l'art, aux réponses à toutes les questions qu'on est à faire autour de la table ronde. Parce que là, on est quelques-uns, on peut donner nos noms, on ne nous contactera pas forcément à l'unité, mais y a-t-il un endroit, une adresse qui peut fédérer
qui rassemble gens, tous les interlocuteurs ayant cette expertise oui, et ce... Ça. Alors, à ma connaissance, ça n'existe pas.
Non,
ça n'existe pas. Et comme le disait Caroline tout à l'heure, alors le bouche à oreille fonctionne, j'allais dire dans la vraie vie, oui, mais également sur le web. Il y a peut-être cette question-là à poser, mais selon la question, l'interlocuteur va être différent. Si on parle de mobilité, eh bien là, on va orienter vers certains acteurs. Si on parle d'accès à l'informatique, alors effectivement, c'est mon métier, mais sur une région bien donnée. Si on parle d'accessibilité des transports en commun, de la culture, de l'art, etc., ben là, l'interlocuteur va plus être public, entre guillemets. Mm-hmm. Donc, il y a une palette de métiers et d'interlocuteurs.
Et en termes de handicap visuel, justement, c'est un domaine que je connais un petit peu mieux. Là, il y a un certain nombre de services qui sont proposés, mais qui sont proposés par des associations diverses. Donc, il n'y a pas vraiment un endroit où on va pouvoir se renseigner. Et chacune de ces assos va renseigner ses propres offres, mais ne va pas forcément renseigner les offres des voisins. Et donc, ça va vraiment compliquer. C'est bien dommage, mais c'est la réalité. C'est toujours des questions de subvention.
C'est monopolaire. C'est du monopole.
Tout à fait.
Si vous êtes branché tarot, et bien vous irez dans tel asso. Si vous êtes plutôt branché promenade, dans tel autre. Après,
dans le monde du handicap, bon, pas que les malvoyants, parce que ce que je dis souvent, il y a aussi toutes les enfants de handicap dont on oublie un peu. Il y a toujours des réseaux au niveau local. Il y en a. Il n'y en a pas partout, mais il y en a quand même beaucoup. Il faut se rapprocher de l'asso local, ou au moins au niveau de la région, qui souvent a des contacts. Maintenant, c'est vrai que c'est malheureusement des fois monopolaire, comme je dis. C'est malheureusement là, après.
À Rennes, c'est le cas.
Et c'est pas l'asso.
et à mon avis, le meilleur moyen de trouver ce qui existe, c'est Internet. Internet a révolutionné l'accès à l'information du citoyen en situation de handicap. Internet est un vecteur d'information fondamental. D'où l'importance à ce que les sites web soient accessibles. Ouais. Ça, c'est une évidence.
Mais là, dans le cas de la personne dont tu parlais, c'est qu'il n'a pas accès à l'informatique. Il veut s'y mettre. Donc là, il n'a pas la possibilité d'y aller. Donc il y a des réseaux associatifs qui peuvent être intéressants, même si malheureusement, souvent, certaines sont très propriétaires parce qu'elles ont ces monopoles. monopolisé.
Ça voudrait dire que, réponse à ma question, si la personne avait Internet, elle trouverait facilement à qui s'adresser?
Oui. Non. Ou en tout cas.
Attendez. Là, il y a plusieurs réponses. Alors, je vais d'abord laisser la réponse à Romuald qui disait oui.
Bah, si toi, entre guillemets, valide, souhaitait le renseigner et l'orienter. Effectivement, si ton premier réflexe est d'aller sur le net, tu vas d'abord tomber sur des communautés, des assos, etc. Donc là, tu auras déjà une liste plus ou moins exhaustive de ce qui peut se passer dans la région. Et ensuite, localement, les acteurs, les présidents d'assos, les trésoriers d'assos, etc., qui connaissent le tissu local, vont pouvoir te renseigner et t'orienter pertinemment. Et concernant certains troubles, je pensais aux troubles du langage, il y a donc des centres référents, ce qu'on appelle des centres référents, rééducation fonctionnelle, troubles du langage, etc., qui sont supposés avoir l'ensemble de ces ressources et également les CICAT, centres d'information et de conseil sur les aides techniques, cette fois-ci, qui sont supposés avoir la liste exhaustive de ce qui peut se faire avec une spécialisation pour certains d'entre eux. Le 49, c'est la déficience auditive, ils sont spécialisés là-dedans, après dans d'autres régions. Voilà.
D'accord, donc Wilfried a retiré son nom et je vais laisser la parole à Caroline qui souhaitait ajouter quelque chose. Et qui a perdu ses mots.
Remarque-moi, j'avais dit non aussi.
Donc Luc.
Ouais. Donc quand on demande, et la question tout à l'heure, si je me souviens bien, était pour une personne non-voyante, aveugle, et non pas tout type de handicap. Donc spécifiquement, en tout cas pour ce qui est du handicap visuel, la réponse qu'on pourrait donner en allant sur le net, elle n'est pas si évidente que ça. D'abord, l'information est extrêmement dispersée. Donc il faut vraiment essayer de retrouver ces informations, mais elle est autant dispersée que dans le monde réel, quoi. Je veux dire qu'à partir du moment où on s'adresse à une association et où on va avoir seulement une bribe d'informations et que l'associatif ne va pas nous renvoyer vers autre chose, sur Internet, c'est aussi compliqué que ça, quoi. Il y a d'une part l'accessibilité du site proprement dit, et d'autre part, une dissémination de l'information qui fait
pas
que...
Pas d'information même, Luc. C'est pas d'information. Des fois, on arrive sur des sites, ils sont là depuis 2003 ou 2004. Donc c'est sûr qu'au niveau de l'information, elle n'existe pas, hein, pas toujours.
À la base, c'est l'essence même du CICAT.
D'accord.
Centre d'information et de conseil sur les aides techniques. Il y en a dans chaque département.
Alors, je vous annonce qu'on arrive en fin d'émission. Je vous remercie donc Nasreddin, Nasli Bakir, Luc, Rachert, je vais avoir du mal, hein, Caroline Touvenot, Romuald Guégan et Wilfried Estachy. Mmh. j'ai dû assassiner le nom deux fois de suite, je suis désolé Romuald. Et merci d'avoir répondu à nos questions sur radio.rml.info.